Café Campus, votre mag étudiant.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et vous écoutez Café Campus, votre magazine d'actualité sociétale et étudiant quotidien. J'espère que vous avez passé un bon week-end prolongé de Pâques et on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui, tout d'abord avec notre spécialiste en architecture, Pierre Magne. Salut Pierre.
Salut, bien sûr.
Comment ça va?
Ça va très bien, très bon week-end de Pâques aussi.
Et tu n'es pas tout seul puisqu'il y a aussi Nicolas en studio. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Comment était ton week-end?
Bah, ça s'est plutôt pas mal passé. Je me suis reposé, moi.
Tu t'es reposé?
Ouais, j'en avais besoin.
Pas de chasse aux œufs pour toi?
Non, j'ai rien chassé du tout.
Et on est aussi avec Manon. Salut Manon.
Salut Mélissa.
Et toi, alors, ton week-end?
Assez banal, mais c'était plutôt bon.
Bah, c'est l'essentiel. Alors, tous les mardis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Partager l'architecture, écriture croisée. On rappelle le concept, Pierre, tu parles d'architecture, mais plus particulièrement à travers le prisme de l'écriture et non celui du dessin auquel on pense le plus souvent. Et c'est déjà le 4e épisode aujourd'hui et on voit avec toi qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire en lien avec l'architecture et l'écriture. Et aujourd'hui, tu nous proposes un entretien avec Flora Bonnemay. Tu es allée à sa rencontre. Qui est-elle et pourquoi tu as voulu interroger une architecte libraire cette fois-ci?
Et oui, effectivement, elle est architecte, donc DPLG, donc elle a fait les études d'architecture. Elle a travaillé en tant qu'architecte dans des agences, en tant que salariée. Et après, elle a décidé de devenir libraire, où elle a fait une formation spécialisée, dont on va parler après. Et c'était vraiment tout le côté très professionnel de l'écriture dans l'architecture et dans son enseignement que je voulais rencontrer avec vraiment ce côté très purement professionnel.
Et de quoi elle nous parle alors aujourd'hui?
Eh bien, elle nous parle de plein de choses. D'abord, elle nous ouvre beaucoup de portes, des portes qu'après on...
qu'on ouvrira en plus. On a peut-être envie de fermer à un moment donné.
Ah non, jamais. Non. On ouvre toujours des portes. Mais il faut aussi parfois les fermer. Et
elle
notamment...
peut se claquer la porte aussi.
C'est ça, la porte peut se claquer, attention. Mais normalement, là, elle ne devrait pas se claquer aujourd'hui. Et donc, elle nous parle, par exemple, de son rapport avec l'écriture quand elle était architecte, mais aussi de son rapport à l'image. Et elle va surtout ne pas opposer image et écriture, parce que c'est vraiment très complémentaire. Elle nous explique, c'est-à-dire que les images peuvent nous véhiculer des idées et l'écriture peut venir compléter et préciser ce que nous véhiculent les images. Et c'est ça, par exemple, dans la BD, elle nous explique, dans la bande dessinée. Et on verra au prochain épisode, la semaine prochaine, avec Laurent Gouillou-Beauchamp, qui est un architecte, mais aussi un bon amateur de bande dessinée.
Et comment on devient alors architecte libraire? Tu nous as parlé d'une formation...
Exactement. Alors déjà, c'est assez surprenant comme combinaison, puisqu'on ne se dit pas qu'un architecte peut devenir libraire en théorie. Donc d'abord, ce qui est important, c'est quand même de dire que c'est pas parce qu'on est archi ou n'importe dans beaucoup d'études que l'on va forcément dans cette direction-là. On peut toujours changer. Donc aux étudiants du campus, on peut quand même se dire que on peut après venir faire des formations complémentaires et bifurquer et partir dans d'autres voies, tout en restant en lien avec sa première formation. Et pour devenir architecte libraire, elle a d'abord donc travaillé en tant qu'archi dans une agence. Et après, elle a fait une formation spécialisée au centre Georges Pompidou. Et c'est pour ça que j'aimerais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Est-ce que déjà vous connaissez autour de cette table, donc Manon, Mélissa et Nicolas, je fais dans l'ordre. Est-ce que déjà vous connaissez le centre Georges Pompidou à Paris?
Alors moi, je connais seulement de nom, mais je ne m'y suis jamais rendue.
Ok.
Moi, je suis déjà allée à Paris, ok, hein. Et le musée, je ne suis pas rentrée, je l'ai vu juste la façade, la fameuse façade avec le conduit, le tuyau.
Ouais, ok.
Nicolas est allé, bien évidemment.
J'y suis allée plusieurs fois.
Ouais. Ah, très bien, ok. Bon, très bien. Donc d'abord, juste pour reposer un tout petit peu le sujet. Donc dedans, il y a une bibliothèque, c'est là où elle a fait sa formation. Et en gros, globalement, le centre Georges Pompidou, donc c'est un centre d'art contemporain qui a été fait par le couple présidentiel Pompidou, qui aimait l'art contemporain et qui voulait faire un musée important à Paris. Et il a été fait par deux architectes qui sont assez connus, qui sont Renzo Piano et Richard Rogers. Donc Renzo Piano, c'est un architecte italien qui a reçu l'équivalent du prix Nobel d'architecture, le Pritzker Prize, dont on parlait, je crois, la dernière fois.
Tout à fait.
Et aussi Richard Rogers, qui est un architecte britannique et qui lui a notamment fait le palais de justice de Bordeaux, juste à côté entre Mériadec et Péberlan, en gros. Voilà. Et donc, ces deux architectes-là, ils l'ont fait en 1977, dans une période assez clé en architecture. Est-ce que du coup, donc Manon, tu n'as pas pu y rentrer dedans, mais tu l'as quand même vu, c'est ça?
Oui.
Ok. Mélissa, toi, tu n'es jamais
rentrée? Je ne connais rien sur le centre okay. Georges Pompidou.
Ok. Et toi, donc, du coup, Nicolas, tu as pu y aller?
Oui, voilà. Déjà, de l'extérieur, c'est particulier, hein, oui. Et quand on est à l'intérieur, encore plus.
Ok. Et alors, comment ça détaille un petit peu, dis-moi, en quoi c'est particulier?
Bon, déjà, c'est tubulaire, quoi. Enfin, y a des espèces de tubes qui jalonnent toute la façade du centre Georges Pompidou. Donc, très coloré aussi.
Oui.
Et on n'a pas forcément, on s'attend peut-être pas forcément à voir un tel bâtiment là où il est placé. Okay. Sachant que tout autour, eh ben, c'est plutôt des bâtiments plus traditionnels de Paris, quoi. Et c'est vrai que en lui-même, c'est presque une œuvre d'art déjà. Oui. Hein, c'est une œuvre d'art contemporain à lui tout seul, ce cher musée. Et après, quand on rentre, c'est très grand. Enfin, les espaces sont très très grands à l'intérieur. On a cette impression dès qu'on rentre d'immensité.
Ok.
Voilà, où il y a plusieurs étages. Et puis, il me semble que la bibliothèque est aussi très, très vaste, très grande, très blanche. Enfin, c'est très lumineux. Voilà, moi, j'ai ce souvenir d'un cadre très, très lumineux. Okay. C'est très blanc comme musée à l'intérieur. Toutes les cimaises, tout ça, tout est blanc. Enfin, je peux me tromper. Oui, peux faire un amalgame avec tous les autres musées d'art contemporain que j'ai vus. Mais il me semble que c'est ce que je ressens quand j'y repense. Ce côté très lumineux à l'intérieur. Est-ce que je me trompe ?
Oui, non, non, c'est bien ça. Et juste, tu parlais de le côté bon, immensité, aussi le côté un peu surprenant et le fait que ce soit en plein dans Paris, c'est ça qui t'a surpris, Manon, toi ? Le fait qu'il y ait ce tube-là un peu dans Paris ?
C'est ça, la façade est plutôt surprenante. Et d'ailleurs, ça ne ressemble pas à un musée. Enfin, maintenant, maintenant que le musée Pompidou existe, on sait, enfin, dans l'imaginaire collectif, les musées peuvent ressembler à ça, mais... De prime abord, si on m'amène et qu'on me dit « devine ce que c'est », je ne suis pas sûre de deviner que ce soit un musée.
Ok, et tu penserais que ce serait quoi, du coup ?
Oh, je ne sais pas, un parking ou, okay, ouais. Ou une entrée, ouais, c'est ça. Un peu, ça fait penser à métro ou...
Le tube.
Ouais, le tube. Enfin, pourquoi, en fait ? Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire de ce musée ?
C'est super intéressant parce que vous avez dit, du coup, plein de choses dedans. Donc, toi, Manon, du coup, le côté un peu ce parking, parce qu'en fait, il a été très mal reçu au début. Et c'est vraiment un peu un moment très clé au moment où il a été construit, ce musée, dans l'histoire de l'architecture contemporaine. Et en fait, on a beaucoup de chance en France et à Paris, et dans le centre de Paris, tu en as parlé aussi, Nicolas, d'avoir ça. Puisqu'en fait, on était à cette période-là, on était donc dans l'architecture moderne. Donc avec Le Corbusier, peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc c'est vraiment une architecture très très cadrée et en fait tous les architectes reproduisaient exactement ça. Et on était très bloqués dans les années 1970 et quand on a construit ça, quand Richard Rogers et Renzo Piano sont venus construire ça, eh bien ça a venu bouleverser complètement les codes architecturaux et d'où le fait que, ben, comme tu dis Manon, c'est très surprenant. On se dit qu'est-ce que ça fout là ? Mais c'est normal en fait et c'est tout à fait normal. Et le fait aussi que ce soit non seulement en plus de ça dans le centre de Paris, eh bien en fait ça vient surprendre encore plus parce qu'on est dans un endroit très patrimonial, comme tu disais Nicolas. Et donc au final, pour les partisans un peu de cette méthode de le fait de s'opposer, où on ne vient pas reproduire l'architecture de Paris, parce qu'ils auraient très bien pu refaire des immeubles en pierre, mais il y aurait eu du béton dessous, parce qu'on sait pas, enfin on sait faire, mais ça coûte beaucoup trop d'argent que de refaire en pierre. On aurait pu refaire exactement les mêmes façades et tout, mais en fait on aurait fait une copie, et une copie qui aurait été très mauvaise, disons. Alors qu'au final, en fait, en faisant cette œuvre d'art qui est presque un monument, comme tu as dit Nicolas, eh bien on vient vraiment s'opposer au faubourg, c'est pas vraiment du faubourg, c'est plutôt du centre, pardon, au tissu urbain historique de Paris. Et donc, en fait, on vient un peu le mettre en valeur, puisqu'on vient se différencier complètement de ce qu'il y a dans l'existant.
On voit que lui, quoi, c'est ça le truc.
Exactement, on voit que lui, mais du coup, en ne voyant que lui, et ben après, on voit aussi les autres. Ça met en évidence le fait que y a un tissu historique, puisqu'il y a ce truc avec des tubes. Je simplifie un peu, mais c'est quand même pas non plus faux. Et justement, le côté parking et tout, comme tu disais, il a été au début très très mal reçu. Ça a été reçu comme une raffinerie de pétrole. On a sorti, on nous a tout dit. Et c'est justement ce qui surprend beaucoup, c'est les tubes, comme vous avez dit, et aussi la couleur. Parce que bien dans l'architecture, on n'a pas du tout l'habitude de voir de la couleur dans nos villes. Il y a très peu de couleurs quand vous réfléchissez, quand vous marchez, et notamment à Paris, il y a assez peu de couleurs. Et il y a aussi assez peu de tubes, parce que ces tubes, c'est quand même vraiment la marque de ce centre Georges Pompidou.
C'est le tube de l'été, quoi.
Exactement. De l'été, de l'hiver, de tout temps, quoi. Du centre d'art contemporain. Et ce tube, eh bien, il est très, très surprenant, parce que normalement, dans l'architecture, on vient cacher la structure. Très souvent, on va assez peu... on va la mettre dans des murs, on va plutôt faire des parois, pas à venir complètement mettre à nu les croix de Saint-André qui sont en fait des, pour contreventer, pour que le bâtiment y tienne, mais aussi tous les tubes d'aération, les tubes de ventilation, d'électricité. Donc on a tous ces formes de tubes et même les escaliers, de venir le mettre en façade. C'est ça qui est vraiment très surprenant. Et ça, en fait, Renzo Piano et Richard Rogers, donc, ils sont venus un peu à contre-courant du mouvement moderne qui était très installé, pour passer donc du mouvement moderne au post-modernisme. Donc c'est vraiment un bâtiment très important dans l'histoire de l'architecture. Et après, en fait, il vient s'intégrer un peu dans une forme d'un groupe de jeunes étudiants de manière internationale qui ont créé notamment une revue qui s'appelait Archigram. Je vous invite bien à aller regarder. Et en fait, Archigram, c'était des dessins un peu farfelus où ils imaginaient des formes architecturales, des architecturales même mouvantes qui pouvaient bouger et qui avaient plein de tubes notamment. Et en fait, c'est vraiment représentatif de ce moment dans l'architecture. Et donc, dans cette immense bibliothèque, comme tu as dit, où il y a vraiment où on a appliqué le plan libre, c'est-à-dire que l'on vient, on a un plateau, des poteaux et un plafond, et en fait on aménage comme on veut. Ça, c'est quelque chose qui reste moderne, donc ça prouve que c'est du post-modernisme. On reste quand même avec une référence avec le mouvement d'avant. Et bien justement, dans cette immensité, il y a une collection et il y a aussi une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, Flora Bonnemay, que l'on va entendre tout de suite, a travaillé et elle a appris le métier de libraire.
Je suis avec Flore Bonnemay, donc qui est architecte des PLG et fondatrice de la librairie en ligne Techné. Peut-être pour commencer, donc on va discuter de votre rapport à l'écriture et à la lecture en tant qu'à la fois architecte mais aussi fondatrice de la librairie. Donc d'abord, en tant qu'étudiante et en tant que jeune avant de devenir architecte, est-ce que vous aviez un intérêt particulier pour l'écriture et la lecture, et si ce lien est ou pas, est-ce qu'il remonte à l'enfance et même peut-être à l'adolescence?
Mais bonjour Pierre, merci déjà pour l'invitation. Pour moi, la lecture, c'était quelque chose qui a toujours été très présent dans ma vie. Depuis l'enfance, j'étais une enfant qui lisait énormément. Voilà, je passais vraiment mon temps à lire un peu de tout. Et, enfin, du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'a vraiment nourrie depuis toujours. Et j'ai vraiment baigné dans une famille assez littéraire. Mon père, il est prof de théâtre. Et donc, la culture, c'était assez important chez nous, même si c'était pas du tout élitiste. Mais c'est vrai qu'on était vraiment baigné dans tout ça.
Quel a été le lien pour cet attrait à l'écriture et à la lecture pendant vos études d'architecture? Est-ce que vous avez réussi à le faire, ce lien?
J'ai l'impression qu'en tout cas, la lecture, oui, toujours. Et surtout après, ça s'est effectivement assez vite mis sur les ouvrages d'archives. Enfin, finalement, dès que j'étais à l'école, que les profs ils ont commencé à nous parler du fait qu'on pouvait aller chercher d'autres choses dans les livres et tout ça. Donc ça, c'est vrai que j'ai tout de suite exploré ce monde. Et ensuite, l'écriture, c'est vrai que le fait de devoir présenter toutes les semaines notre projet devant le groupe, c'est vraiment un exercice pas vraiment commun dans les autres études, à part les études d'art, mais c'est vrai que ça nous oblige vraiment à faire preuve d'esprit de synthèse, de choisir les bons mots pour expliquer les bonnes choses. Et oui, du coup, ça, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance, de toujours rédiger mes présentations en amont, même si c'était juste parler quelques temps. Et après, effectivement, la partie littéraire, on peut la retrouver pendant le Master 1 avec le mémoire. Et ça, c'était un exercice qui est super important. Enfin, pour moi, ça m'a vraiment ouvert un peu le champ de la recherche, de montrer qu'on pouvait tout à fait nourrir notre pratique d'architecte en allant chercher d'autres ressources et que c'était pas du tout contradictoire. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal d'agences qui font des recherches transversales. Voilà, d'aller chercher une thématique, de l'approfondir et de le raccrocher à sa pratique. Au final, on voit qu'aujourd'hui, ça se développe bien et c'est vrai que c'est un exercice assez important pendant les études.
Là, c'était pour votre pratique de l'architecture en tant qu'étudiante. Et une fois que vous avez donc été diplômée, donc vous avez travaillé d'abord, si je ne me trompe pas, à l'agence Maxime Schmitt Architecture. Oui. Voilà. Et ensuite, après, à l'AN Architecture à Paris. Dans ces deux expériences professionnelles, est-ce que vous avez pu un petit peu relier votre intérêt pour l'écriture et la lecture avec votre pratique de l'architecture?
Oui, en fait, c'est vrai que dans ces agences, C'était très important, la bibliothèque d'agence, elle était au milieu de l'agence, elle était constituée souvent, on pouvait regarder les livres, on était abonné à des revues. Les textes pour les concours, ils étaient vraiment très importants. C'était important de voir embarquer les personnes dans l'histoire un peu de ce projet, de cette esquisse. Enfin, en fait, c'est vrai que, en tout cas, chez Maxime, c'était important pour lui. Enfin, que voilà, il y a des gens qui savent pas forcément lire des plans dans les jurys de communautés, de communes. Le texte, c'est aussi un outil pour les faire rêver sur le projet. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, où les gens avec qui je travaillais, eux, ils pratiquaient ça de manière assez importante, et le rapport à la référence, c'était assez important aussi. Effectivement, chez Lan aussi, il y avait toute la partie sur le pôle de recherche, sur les livres qu'ils avaient en lien avec le pavillon de l'Arsenal, et ça, du coup, ils mettaient vraiment en place des équipes pour faire des recherches. Donc c'est vrai que dans ces agences, oui, c'était important, en tout cas, cette discipline littéraire, elle était vraiment au cœur de leur pratique.
Pourquoi est-ce que vous vous êtes décidé de vous former ensuite au métier de libraire ? Pour montrer aux agences qu'on peut se diriger plus vers la lecture ?
Oui, voilà, en fait, bon, moi, du coup, j'étais arrêtée pas mal de temps parce que j'ai eu un problème de santé. Après, quand je suis revenue sur le marché du travail, en tout cas, pour moi, voilà, ça avait pu un peu prendre du recul sur comment ça fonctionnait. En tout cas, du recul par rapport à moi, ma vision, bien sûr, qui était subjective, mais... Enfin, de voir effectivement ce rythme très chronophage, de voir qu'on n'avait pas le temps de tout ce qu'on nous a appris à l'école, qui était l'importance de l'esprit critique, l'importance de la curiosité, l'importance de voilà de se nourrir de beaucoup de choses et d'aller voyager. Ben, en fait, on ne le refaisait plus en agence et tout d'un coup, ça m'a un peu sauté aux yeux de me dire mince, mais en fait, comment on peut construire dans une ville aujourd'hui sans en fait avoir pris le temps de faire des grosses recherches. Et en fait, d'aller travailler dans une librairie, c'était aussi pour voir tous ces livres qui existaient et me rendre compte en fait qu'il y avait beaucoup de livres qui existaient, beaucoup de maisons d'édition qui font des choses super. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un manque de communication entre ces entités, entre les maisons d'édition et les archis ou les étudiants. Par un manque de temps, par un manque de, voilà, de moyens, enfin, tout le monde est pris dans ces choses. Et je me suis dit qu'en tout cas, voilà, moi, j'avais un profil qui pouvait permettre d'essayer de voilà, montrer aux agences et leur simplifier un peu l'accès à tout ça, au monde littéraire. Et c'est vrai que je sais qu'on n'a pas le temps d'aller tout le temps à la librairie. Du coup, si on peut nous aider à le faire, ben, du coup... Voilà, c'était vraiment pour un peu décloisonner tous ces mondes, quoi.
Donc c'était plus aussi quelque chose de pratique, en fait, au final, de rendre la chose plus accessible.
Il y a aussi, en fait, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect pratique du fait d'avoir choisi de faire une librairie, parce que sinon j'aurais pu faire de la recherche et tout ça, mais je pense que c'est important qu'à un moment, on puisse acheter les livres. À Paris, on a de la chance d'avoir des librairies d'archi, mais ben ailleurs que Paris, non. Moi, j'ai travaillé pas mal d'années à Paris, mais sinon, je viens pas du tout de Paris. Je viens d'Albi à côté de Toulouse. Pas mal d'amis qui ont déménagé dans plein de villes hors de Paris, dans des campagnes. Et en fait, ben tous ces gens, ils me demandaient tout le temps de ramener des livres en train, de faire des choses ou de leur envoyer par la poste. Et ben pour moi, c'était totalement fou que ça soit centralisé comme ça, et vraiment j'avais envie que ces agences elles puissent facilement acheter un livre et que ça soit pas un parcours du combattant, et encore moins de faire sur Amazon, parce que du coup leur donner des conseils tout en pas proposant pas en fait aussi une façon un peu alternative de se cultiver, enfin je pense que voilà, ça devait aller un peu dans les deux. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie un peu pratique, et ça du coup les formations dans les librairies, c'était important parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on ne peut pas non plus inventer. Donc l'aspect libraire, il fallait quand même que je l'apprenne. Donc ça, c'était super intéressant. J'ai travaillé du coup au Centre Pompidou, enfin à la librairie. Donc c'était une super expérience. Ils étaient super OK pour me former. Et bon, c'était passionnant de travailler là-bas. Donc je pense que c'était bien de faire un projet en même temps un peu philosophique et en même temps très pragmatique aussi.
Et donc justement, ce projet donc de librairie, donc c'est donc une librairie qui est en ligne, où tout se fait par Internet. Donc vous le décrivez comme un projet de diffusion, de promotion et de sensibilisation à la culture du bâti, au savoir-faire et au patrimoine par les livres. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette librairie et donc les motivations qui ont été les vôtres ?
Souvent, les projets ou les assos de médiation culturelle, elles sont plus tournées vers faire des maquettes avec les enfants et tout ça. Et bon, voilà, moi, c'est vrai que du coup, ben, bon, ce qui était important pour moi, c'était effectivement cette littérature et aussi tout le rapport à la référence. Donc vraiment, les images, la bibliographie, l'iconographie, tout ça, c'est un vaste monde. C'est vraiment lié à la culture. Et en fait, voilà, c'est pas... Enfin, l'architecture, elle se construit pas qu'avec des dessins, des croquis. C'est vrai que les mots, c'est important, les pensées, c'est important. Et s'interroger sur l'architecture, prendre le temps de... Voilà, d'être critique, de partager des idées, de partager des réflexions. Mais ça, en fait, ça peut pas passer forcément que par un temps court d'image. Surtout, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être assez abreuvé aussi de mots, de phrases un peu rapides. Et en fait, prendre le temps de faire une interview avec un penseur ou qu'un architecte puisse avoir le temps aussi, lui, de retranscrire par écrit ce qu'il a vécu dans sa vie. Enfin, je pense que c'est très important pour la transmission. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui vont prendre un grand soin à vraiment essayer de donner à voir des pensées, de donner à voir des interrogations. Et ça, ça fait partie, voilà, de cette volonté de médiation qui est dans le projet. Et après, c'est vrai que je n'avais pas envie non plus de le conditionner que aux architectes, parce que beaucoup d'archis font d'autres choses. Il y a des archis photographes et peintres. Et donc, voilà, il y a aussi, c'est aussi tourné vers le monde de l'artisanat, des artistes, des bâtisseurs. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui font vraiment plein d'autres choses. Et voilà, c'est vraiment le monde. C'est pour ça que c'est la culture du bâti et des savoir-faire. C'est un monde plus global que les gens qui sont vraiment purement architectes. Parce que je pense que c'est aussi se fermer à plein de, voilà, d'autres découvertes de penser ça, quoi.
Et donc, justement, par exemple, sur le contenu de ce que vous proposez notamment des sélections de livres de chevet d'architectes. Quel était le but un peu ? C'était justement de venir rapprocher la personne de l'architecte avec le monde de l'édition et de pouvoir le communiquer.
C'est vrai que ces listes, elles sont venues par une amie qui m'a parlé qu'elle allait tout le temps sur la cinéthèque et qu'elle voyait en fait les listes des réalisateurs et en qui disait les 10 films préférés de Pedro Almodovar par exemple. Et après, voilà, en parlant avec elle, on s'est dit que ça serait génial de savoir quels étaient les livres préférés d'amis, puis après d'architectes qu'on connaissait, puis après d'architectes qu'on admirait. Et en fait, après, c'est rigolo, c'est devenu un jeu qui est marrant entre ces gens que je connais au début un peu plus ou moins, et puis après, on va partager des choses, et souvent, on voit des affinités par aussi les lectures, et ça veut dire des choses sur des gens, et c'est assez rigolo. Et on voit qu'il y a des gens qui ont des lectures très, très intellectuelles, d'autres des lectures qui sont un peu plus farfelues, qui n'ont pas du tout de lien direct. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut inspirer d'autres personnes. Et après, ça peut faire ricocher comme ça. Le but, c'est vraiment de faire un inventaire avec le plus de choses possible. Et comme ça, ça fait vraiment comme une collection un peu de quels sont les livres aussi qui représentent un peu toutes ces générations d'architectes.
Et c'est aussi peut-être un moyen de montrer que vous parliez justement de l'ouverture de l'architecture vers l'artisanat, l'art et plutôt la construction, le bâti. C'est aussi un moyen de montrer bien que en fait, l'architecture est très ouverte.
Parce que c'est vrai que les livres que les gens recommandent, c'est assez rarement un traité de Le Corbusier. Hein. C'est vraiment d'autres choses qui leur ont ouvert les yeux sur des choses. Ça peut être une BD, ça peut être un livre de photos. C'est vrai que c'est très souvent des choses comme ça. Ça peut être des livres audio, des trucs sonores. Et effectivement, on voit que en fait, cette nourriture, elle vient de plein de choses différentes. Et que la curiosité et l'envie d'aller voir ailleurs, c'est quand même un point commun entre toutes ces personnes.
Et à propos de la BD, par exemple, ça fait partie des livres les plus lus ?
C'est quand même... moi, je rencontre beaucoup de gens qui lisent vraiment beaucoup de BD. C'est quelque chose qui est acheté, qui est lu, qui devient de plus en plus reconnu. D'ailleurs, là, le prix Angoulême, c'est... qui a eu cette année, là, en février ou janvier, c'est une BD qui fait comme des plans et des axonaux, même si ça n'a pas du tout rapport avec l'archi. C'est quand même rigolo de voir que la méthode de représentation, elle était comme ça. Et après, bah, y en a vraiment des dizaines de très grandes qualités qui peuvent être juste des magnifiques dessins ou des choses poétiques. Enfin, ça, c'est vrai que ça peut vraiment nourrir. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a beaucoup d'archis, oui, qui s'en inspirent vraiment.
Est-ce que vous pensez, par exemple, que la BD peut être un moyen de réconcilier un peu l'univers de l'écrit, de la littérature, avec l'univers du graphisme qui est très propre aux architectes?
Ben, c'est vrai qu'en fait, on voit que aujourd'hui, il y a quand même des gens qui peuvent utiliser la bande dessinée comme une façon d'exprimer des choses dans les agences. Ça se voit pas encore trop, même si j'ai des amis qui le font, mais c'est vrai que déjà, de faire des dessins un peu moins... d'introduire un peu du texte, effectivement, et de raconter une histoire par autre chose qu'un texte écrit, on sent que ça se met vraiment en place et que, effectivement, pour communiquer un projet, par exemple en concours, là on a des amis, ils ont répondu avec une grosse agence en concours et ils leur ont demandé une mission de dessin de BD, et vraiment les planches du concours, c'était pas des perles, c'était des planches de BD, et enfin, c'était génial parce que pour les élus, enfin, ça, ils se projettent super bien, tout de suite il y a les enfants qui sont dessinés dans les bulles de BD, donc le bâtiment il vit, et c'est vrai que, enfin, je pense que cet outil il peut vraiment être amené à devenir un peu plus utilisé parce que c'est accessible à tout le monde et c'est en plus ça se prend pas au sérieux, c'est pas prétentieux et du coup ça peut vraiment aussi être quelque chose d'un peu plus joyeux.
On parlait juste avant des livres de chevet d'architectes. Il y a notamment une qui est la page Instagram Contrôle V de l'architecte Yann Motreff. Cette page Instagram, elle se décrit comme un contre-pied au non-sens d'une architecture photogénique et influencée. Donc, qu'est-ce que vous souhaitiez souligner à travers l'invitation de cet architecte ?
Ce projet sur Instagram, en fait, je trouve qu'il est intéressant parce que un contenu qui peut être un peu cynique, mais tout en étant, en tournant parfois au comique, effectivement, cette tendance aujourd'hui à l'image sur les réseaux sociaux qui est... Avec les algorithmes, en fait, on peut facilement avoir accès à beaucoup d'images. Aujourd'hui, on peut voir des projets d'archi dans des pubs pour des voitures, des choses comme ça. En fait, l'archi, ça peut, et la déco, tout ça, ça peut aujourd'hui un peu devenir un peu mainstream, entre guillemets. Parce qu'il faut faire, c'est vraiment d'essayer de déconstruire ça, d'être un peu moqueur aussi. Prendre l'architecture pour faire dire des choses qui, en fait, n'ont pas de sens. Et des fois, ce contresens-là, justement, de mettre un beau projet d'archi dans une pub de voiture, ben, en fait, ça peut être un projet d'un archi qui s'est battu pour des choses d'écologie. Et en fait, les publicitaires, ils s'en fichent complètement. Et du coup, il y a un peu des anachronismes, des contresens. Et je pense qu'avec un peu de décalage et humour, il arrive un peu à faire sortir ça. Mais c'est vrai que ça demande une assez grande culture architecturale, ce qu'il a. Justement, ça montre que cette culture, elle peut être aussi au service d'avoir un esprit critique. Et ça, je trouve que c'est important.
Et justement, par rapport à ce culte de l'image, qu'est-ce que vous en pensez avec à la fois le monde de l'architecture, mais aussi l'enseignement de l'architecture?
Je trouve que l'image, c'est particulier parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai un rapport à l'image très un peu... collection. Enfin, j'adore les belles images. Pour moi, la beauté des images, c'est super important. Et j'en collectionne beaucoup, entre guillemets. Je vois pas ça comme quelque chose de forcément négatif parce que ça nous montre plein de choses sur le monde aujourd'hui. Ça révèle tellement de choses, en fait. C'est... Voilà, il faut, je pense, être conscient que parfois, cette image, on nous l'a mis devant les yeux et c'était pas neutre. Mais en tout cas... C'est pas quelque chose de négatif d'avoir accès à plus de choses.
Mais en même temps, du coup, vous souhaitez vous aussi, à travers votre librairie, vous aussi diffuser des images, autant du texte que des images.
Tout à fait.
Par rapport à venir le diffuser, justement, est-ce que vous arrivez à le diffuser aux étudiants, aux enseignants? Quel est le lien entre la librairie Techné et l'enseignement de l'architecture?
Les écoles et les étudiants, c'est un public assez important. On essaye de travailler avec plusieurs écoles d'archi sur le fait de permettre aux étudiants d'acheter des livres. On sait que c'est des prix assez coûteux. Mettre en place voilà, des choses qui permettent aux étudiants de pouvoir s'offrir des livres sans que... ben voilà, ça, enfin, de toute façon, ils le feront pas si jamais c'est pas cher. Donc, soit, voilà, par exemple, avec l'école à Paris, à Marne-la-Vallée, on a mis en place un système où, quand ils font des concours, par exemple, en interne, on fait des bons d'achat pour la librairie. Donc, par exemple, pour Noël, il y a des gens qui ont gagné 200 euros à dépenser à la librairie parce qu'ils avaient gagné un concours à l'école. Ça, c'est aussi, en fait, c'est génial. L'école les aide aussi de cette façon, en fait, en leur permettant de s'offrir des livres. Après, il y a les stands que je fais aussi dans les écoles. Donc, des fois, je vais dans l'école pour soit la signature d'un ouvrage, soit quand il y a une conférence, et du coup, vendre les livres en rapport. Il peut y avoir des ventes de sortes de bourses aux livres avec des livres d'occasion, donc avec des petits prix. Là, en mars, je vais aller du coup à l'école de Toulouse aussi. Il y a un enseignant qui m'a invité pour parler justement de l'alternative à la profession d'architecte, essayer de montrer aux étudiants de première année qu'il existe d'autres façons de pratiquer l'architecture. Voilà, je pensais pas que j'allais devoir... que ça allait intéresser des gens d'expliquer tout ça, mais du coup, c'est super. Enfin, je suis super contente de pouvoir montrer à des étudiants que oui, en fait, on peut faire tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, ça veut pas dire que les choses, elles sont cloisonnées. Enfin, même si on fait ça, on peut très bien aussi construire à côté.
Et de ne pas les faire arrêter à ces étudiants.
Voilà, c'est ça, de dire, ben oui, c'est vrai que si des fois c'est dur, enfin c'est quand même des études magnifiques. Moi, c'est clair que je le referai, c'est des études superbes et ça nous apporte un esprit vraiment critique et une curiosité qui sont, enfin on voit par rapport à d'autres étudiants qui sortent après d'écoles d'ingénieur et tout ça, mais à quel point les étudiants d'archi sont curieux, ouverts d'esprit. Et c'est vrai que c'est quand même des études qu'il faut préserver parce qu'elles sont hyper précieuses.
Justement, sur ce choix de donc, la librairie Techné, elle est basée, vos bureaux sont basés à l'Aréole, donc qui est situé à peu près plus proche de Bordeaux, mais c'est à peu près situé entre Bordeaux et Toulouse, qui comporte les deux grandes écoles d'architecture du Sud-Ouest. Pourquoi avoir choisi l'Aréole ?
C'était très bien pour moi, mais c'est vrai que c'est super parce que c'est... Même si c'est dans un monde rural, en fait, c'est très bien connecté. À Bordeaux, j'y suis en 30 minutes en train, et à Toulouse, en peut-être une heure et demie en train, même pas une heure. Donc, c'est super pour moi de pouvoir aller dans ces deux grandes villes où il y a les écoles d'archi, où il y a des chercheurs, mais même à Poitiers. Enfin, en fait, ça va assez vite de relier chaque ville. Et en même temps, ça allait aussi avec le fait que, voilà, moi, je prône la culture qui doit vraiment être un peu partout. Et ici, en tout cas, dans le village dans lequel j'habite, on essaye vraiment avec d'autres personnes de... Voilà, en tout cas, de maintenir un lien culturel fort qui peut être par le théâtre ou par d'autres choses, mais vraiment, en tout cas, de montrer que... Voilà, il y a de la culture qui peut être un peu partout et ça, pour moi, c'est important, en tout cas, de le combattre un peu tous les jours.
D'accord. Et après, dans tous les cas, c'est quand même en ligne.
Exactement. En fait, pour moi, le projet en ligne, c'est le plus important. Et ensuite, de faire des stands éphémères. Et du coup, là, c'est moi qui vais bouger pour aller dans les écoles, pour aller dans les festivals. Cet été, on était à Marseille. En fait, pour moi, c'est moi qui dois aussi aller auprès des publics, justement, toujours dans cette idée de faciliter un peu aussi cet accès. Pour moi, être en ligne et en nomade, c'était les deux choses qui pouvaient être le plus simples pour tout le monde. Donc, c'est les deux choses que je développe le plus, en tout cas.
Merci bien. J'ai une petite dernière question. Si vous aviez un ouvrage donc écrit, que ce soit poème, article ou bien plutôt de la fiction, ce serait lequel à conseiller ?
Alors, ben, moi, le livre que j'offre, c'est Les pierres sauvages de Fernand Pouillon. En fait, je trouve qu'il décrit très bien les choses qui sont passionnantes dans le fait d'être un architecte, tout en étant une fiction. Donc, du coup, ça parle de la construction de l'abbaye du Thoronnais. Enfin, même si elle n'est pas forcément explicite que c'est cette abbaye, mais on s'en doute, qui est donc vers Aix-en-Provence. C'est comme un carnet de bord d'un moine bâtisseur, donc ça doit être vers le 11e siècle, quelque chose comme ça. Donc, il construit en fait cette abbaye en faisant attention au soleil, à l'ombre, là où il y a des points d'eau. Donc, c'est quelque chose de très... sur l'atmosphère, sur tout ça, et en même temps, voilà, cette abbaye qui est une abbaye assez culte dans le monde des archis, avec Le Corbusier, Snoddy et tout ça, qui ont beaucoup parlé de tout ça, donc ça rejoint plein de choses, et en même temps, c'est comme un peu un écrit historique, donc je trouve qu'en tout cas, c'est toujours un plaisir de relire et de l'offrir.
Ben, très bien, parfait, c'est noté. Effectivement, je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, c'est pour ça. Mais je l'ai eu. Je l'avais même acheté en ligne pendant le confinement.
Ben, pour s'évader, c'est parfait.
C'est vrai. Ben, très bien. Bon, ben, merci bien.
Campus Bordeaux.
88.1.
Campus Bordeaux. 88.1.
Né en 1912. Fernand Pouillan a conçu au cours de sa carrière d'architecte de nombreux bâtiments publics et des équipements en France, en Algérie et en Iran. Officier de la Légion d'honneur en 1984, il a exercé jusqu'à sa mort en 1986. A-t-on jamais mieux décrit ce qui anime les architectes lorsqu'ils exercent leur art, commente Lacroix. Fernand Pouillan, Les pierres sauvages, quatrième de couverture. Dans les murs de l'abbaye du Thoronet, vibre à jamais le génie et la foi. Un moine bâtisseur construisit, au XIIe siècle, ce chef-d'œuvre cistercien. Son journal de bord raconte les difficultés techniques infinies, la faiblesse et le courage des hommes, et aussi les doutes qui l'assaillent. Il partage ses angoisses, ses réflexions et ses merveilles de la rencontre scellée entre l'art et Dieu.
Campus Bordeaux.
Radyosunda 88.1'desiniz.